Dans le cadre des journées d'études de la société de Borda, nous allons écouter Jean-Philippe Maisonnave qui va nous parler de l'ameublement et décor de l'église de Buclose entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Merci. Bien, on va descendre de ces hauteurs poétiques pour des choses beaucoup plus, je ne dirais pas prosaïques, mais concrètes en tout cas, et matérielles. Voilà, donc je vais vous parler, comme le titre de la communication l'indique, de l'évolution de l'ameublement et du décor de l'église, ou plutôt des églises qui se sont succédées à Buclose jusqu'à la basilique actuelle. Quelques mots liminaires que je vais essayer d'abréger parce qu'on est déjà très en retard, pour dire tout de même que la reconstitution de l'histoire d'un ensemble mobilier est un exercice difficile. Je vais faire un plaidoyer un petit peu pour moi, principalement à cause de la rareté des sources écrites qui concernent ce mobilier, au contraire de l'architecture qui est beaucoup mieux documentée généralement dans les archives anciennes. Bon, je ne détaille pas les registres fabriciens qui sont très inégalement conservés, qui sont souvent lacunaires ou très peu explicites sur le mobilier lui-même, et souvent des difficultés accrues dans le cas d'un établissement, d'une chapelle de pèlerinage qui ne dépend qu'indirectement d'une paroisse. Bon, je passe sur le détail des procès-verbaux de visite pastorale qui sont intéressants parce qu'ils permettent parfois de déterminer si à telle ou telle date, tel ou tel meuble est déjà présent dans l'église. Mais en fait, ça ne donne pas des renseignements extrêmement précis sur l'œuvre elle-même. Et quant à retrouver des contrats, des prix faits ou des documents de ce type-là, ça demande des recherches évidemment très longues et surtout très, très aléatoires. Il faut un peu piocher un petit peu à l'aveuglette pour trouver des documents intéressants. Bon, toutes choses qui ne sont guère possibles dans le cadre d'un inventaire comme celui que j'ai fait à Buclose en 2011-2012, puisque cet inventaire qui a été fait pour le compte donc, du service régional de l'inventaire et du patrimoine, où le temps de nos enquêtes est évidemment limité et pas toujours suffisant pour entrer un peu dans le vif du sujet. Alors cette enquête s'est déroulée, donc je l'ai dit, il y a une dizaine d'années, et elle se bornait originellement au mobilier qui est actuellement conservé dans l'église et dans la basilique et dans ses annexes. Et c'est à l'occasion des 400 ans du sanctuaire et de la rédaction du dictionnaire illustré que j'ai pu mener quelques recherches complémentaires que j'avais un peu laissées de côté à l'époque, notamment dans les archives diocésaines. Et merci d'ailleurs à Madame Jogan et à l'équipe, puisque ça a permis de remettre au jour beaucoup de renseignements qui m'avaient échappé à l'époque, notamment à partir des registres de comptes du XIXe siècle qui sont extrêmement riches, et tout un tas de documents annexes qui documentent parfaitement ce décor du XIXe siècle. Pour le mobilier de la chapelle primitive de 1622, en revanche, il faut se contenter de sources éparses, parfois indirectes et assez peu précises. Bon, l'ouvrage majeur, bien sûr, de Raymond Moriol en 1726, repris par Jean-Baptiste Delméja en 79, fait de très très légères allusions à la chapelle elle-même. Et bon, ce n'est pas vraiment à partir de cela qu'on peut reconstituer le décor ancien de la chapelle d'origine de Buclose. Les autres documents sont bien sûr les inventaires qui ont été rédigés en 1790 et 1792, donc au début de la Révolution, des documents qui préludaient à la dispersion, ou du moins, voilà, je vais revenir là-dessus, on va dire la dispersion de l'ensemble qui a été constitué sous l'Ancien Régime. Dans le cas de Buclose, cette inégalité des sources donc entraîne de grandes disparités dans la connaissance du décor de l'édifice qui a précédé la basilique actuelle, et seuls quelques vestiges subsistants peuvent donner une idée des dispositions originelles en corrélation donc avec ces rares textes que j'ai évoqués. Le mobilier acquis pour la nouvelle église au milieu du XIXe est en revanche parfaitement documenté, je vous ai dit les registres de comptes, et qui, ces documents qui détaillent vraiment les achats les plus infimes qu'a pu effectuer la fabrique à partir de cette époque avec une foule d'indications sur la provenance des meubles et des objets, leur prix et également les conditions de leur acquisition, c'est-à-dire notamment les noms des donateurs. Plutôt qu'ils ne donnaient pas les objets eux-mêmes, ils donnaient l'argent qui permettrait ensuite d'acquérir ces objets et ces meubles. Donc cette communication, si je peux arriver au bout, comprendra trois parties principales de longueur inégale. La première, axée autour des œuvres anciennes actuellement remployées dans la basilique. Et cette partie aura un peu des allures de catalogue, hein, je m'en excuse par avance. La deuxième sera un peu plus synthétique. Elle présentera donc la constitution du décor et de l'ameublement des années 1850 à la fin du 19e. Principalement à travers la problématique de la commande et du choix des artistes qui sont intervenus sur le chantier. Et dans la dernière partie conclusive, j'aborderai très rapidement les modifications plus ou moins importantes qu'a connues ce décor au cours du XXe siècle, en particulier lors de la grande restauration de l'édifice en 1959-1960. Bien, dans le cadre de cette présentation, il sera bien entendu impossible d'évoquer la totalité des œuvres que renferme l'Église, qui est très riche de ce point de vue, et je me permets donc de renvoyer à la fois aux notices du dictionnaire illustré et aux dossiers qui sont consultables sur le site internet, je vous fais un petit peu de pub, donc du service de l'inventaire régional pour une vision plus complète de ce décor et de ce mobilier. Alors, les principales traces documentaires sur le mobilier ancien, eh bien, ce sont les vestiges eux-mêmes, en petit nombre, mais assez significatifs. Je vais les évoquer de manière assez exhaustive, en raison de leur rareté même, puisqu'il y a assez peu de meubles conservés, pour mettre ensuite l'accent, je l'ai dit, sur l'ensemble du 19e. Le plan de la chapelle originelle, donc la chapelle de 1622, qui est dite un peu abusivement « Sainte-Chapelle », est connu par des descriptions très succinctes. Il comprenait un vaisseau central flanqué de deux bas-côtés. Celui du nord était dédié à Sainte-Madeleine, bien sûr, la pécheresse repentie, donc il y avait toute sa place dans un édifice de pèlerinage. Et le bas-côté sud qui était terminé par une chapelle dédiée évidemment à l'enfant du pays, Saint-Vincent de Paul. Alors, soit à partir de 1729, date de sa béatification, soit 1737, la canonisation. Ça, ce n'est pas très clair là-dessus. Le mobilier de la chapelle commencée a été constitué essentiellement et dès l'origine, je l'ai dit, grâce aux dons de visiteurs de marque. Je citerai seulement Suzanne de Thémines, la future duchesse de Ventadour. Voilà, on voit qu'on avait commencé vraiment à de très hautes sphères, sans parler même de la reine d'Espagne. Comme celui de la basilique actuelle, le point focal de la composition dans l'ancienne chapelle était constitué évidemment par la relique. J'y arrivais, oui. La relique insigne que constitue la fameuse statue de la Vierge à l'Enfant, qui a vraiment justifié la construction de cette chapelle. Donc, je m'attarde évidemment pas sur les conditions de la relique ouverte en 1620 après un enfouissement probable vers 1570 pendant les guerres de religion. Alors cette statue mariale, c'est donc à la fois la matrice du pèlerinage et du sanctuaire, mais c'est également une œuvre d'art qui est situable dans le temps et dans l'espace. Et c'est aussi évidemment, du point de vue catholique, un support de dévotion, qui est entouré, évidemment, on le sait, d'un halo de légende tout à fait unique dans le diocèse landais. Bon, je ne m'attarderai pas sur la légende, qui a fait l'objet de très très nombreuses publications depuis au moins Raymond Moriol. L'hypothèse aujourd'hui la plus communément admise, mais pas unanimement, c'est après les travaux de l'abbé Gabara en 1874 et du lazariste Pierre Coste en 1932, et qu'il s'agirait d'une commande d'Arnaud de Boiry, donc évêque de Dax de 1499 à 1503, qui était connu pour son intense piété mariale, qui lui a fait multiplier beaucoup de fondations ou de donations à divers sanctuaires. Et en l'occurrence, il s'agirait, selon c'est l'abbé Gabara qui avait lancé cette théorie quasiment hérétique, il s'agirait d'une offrande en direction de l'église voisine de Ponton, Pontonx, je ne sais pas si on prononce le X, voilà, Donc, cette théorie-là, je ne vais pas la discuter, évidemment, ici, ce n'est pas le lieu. Quant à la statue comme création sculpturale, son étude n'a pas beaucoup évolué depuis les conclusions de Pierre Pradel en 1966 et surtout de Paul Roudier en 1988. Tous ces deux historiens de l'art l'ont située autour de 1500, avec une légère différence d'appréciation sur l'origine, c'est-à-dire que Pradel pensait plutôt à une production du Val-de-Loire dans l'orbite du célèbre Michel Colombe, et Roudier penchait plutôt sous réserve comme une œuvre d'une création locale ou au moins régionale. Donc on recentrait un petit peu au moins sur l'Aquitaine, sinon sur les Landes elles-mêmes. Pour les caractères techniques de la sculpture, eh bien Delphine Masson, qui est malheureusement empêchée, aurait dû vous exposer ses conclusions à l'issue de la restauration de 2020. D'après ce que nous dit M. Guichenuit, elle pourra le faire donc dans les mois à venir. Et donc, je ne m'attarde pas davantage sur ces conclusions qui, peut-être, justement, donneront un éclairage nouveau sur l'histoire de cette statue, de la plus célèbre statue landaise, je crois qu'on peut le dire. Alors, on sait que le mobilier cultuel de la France d'Ancien Régime a dû traverser deux épreuves majeures, entre beaucoup d'autres. La Grande Révolution, bien sûr, et peut-être plus périlleuse encore, le renouveau médiéval du milieu du XIXe siècle, donc un mouvement dont la fièvre constructive a souvent balayé jusqu'au dernier vestige de décors antérieurs, notamment de décors du XVIIe, XVIIIe siècle, qui, pour parler vulgairement, n'avaient pas la cote auprès des réformateurs du type de Viollet-le-Duc. Voilà, dans le cas de Buglos, le cas est beaucoup moins tranché, puisque la Révolution n'y a eu, on en a parlé ce matin, n'a eu somme toute que des répercussions assez limitées sur le sanctuaire lui-même. Après les deux inventaires de 1790 et 92, le dernier au moment de l'expulsion donc des lazaristes, l'argenterie cultuelle a bien été confisquée pour être envoyée à la fonte, donc à Bayonne vraisemblablement. Les linges et les archives ont été brûlés en décembre 1994, Frimaire en deux. Et quant au fameux pillage du 27 juin 1793, il a emporté, alors je cite, l'horloge, la cloche et un bénitier en marbre. Je pense que c'était les objets les plus saillants, il y a dû y avoir d'autres disparitions. Ce pillage a également dégradé assez largement le reste du mobilier, mais il a épargné certaines des pièces maîtresses que je vais vous montrer, puisqu'on sait que la chapelle, au contraire du domaine et de la maison des missionnaires, n'a pas été vendue et que le pèlerinage s'est donc perpétué, on va dire, dans une semi-clandestinité jusqu'à la réouverture officielle du culte en novembre 1799, je crois. Mais les documents, malheureusement, à cette époque et après la réouverture progressive du sanctuaire, sont très peu précis sur le contenu exact de la chapelle à cette époque. Et donc, on ne peut en juger, comme je l'ai dit, que par les quelques éléments conservés. Il est évident, en tout cas, que dans les 3 ou 4 premières décennies du XIXe siècle, l'Église n'a pas connu le renouvellement plus ou moins complet du mobilier qu'on observe à cette époque dans la plupart des paroisses voisines qui avaient été soit abandonnées, soit pillées au cours de la Révolution. Donc seul le vestiaire liturgique et l'orfèvrerie, bien sûr, devaient être remplacés en totalité. Et c'est peut-être à cette époque que les recteurs successifs du sanctuaire ont pris l'habitude d'offrir un ou plusieurs objets d'orfèvrerie au sanctuaire, le plus souvent leur calice d'ordination. Et c'est ces vases qui constituent aujourd'hui l'imposante collection que possède le sanctuaire. Alors, les meubles subsistants dont je vais vous parler, bien qu'assez modifiés par les restaurations du XIXe siècle, doivent leur survie pour l'essentiel à l'action de l'abbé Vieilledent, qui est trésorier de la fabrique de Buglos à partir de 1848. Et dans son rapport de juin 1855 à Monseigneur Lannelux sur l'aménagement du nouveau sanctuaire, c'est son rapport donc qui a permis la conservation de plusieurs des pièces mobilières les plus importantes, dans l'ordre d'ancienneté, la chaire à prêcher, le maître-autel et une partie du décor de l'ancienne chapelle Saint-Vincent. Sur les deux premiers meubles, donc la chaire et le maître-autel, qui étaient menacés de suppression pure et simple, le plaidoyer de l'abbé a emporté le morceau, si on peut dire, auprès de Mgr Lanelluc, avec moult épithètes très louangeuses, notamment la chaire est qualifiée de petit chef-d'œuvre de sculpture dans le style de la Renaissance. Bon, une Renaissance, évidemment, dans un sens très, très extensif et pas très historique. Et le vieil autel est un souvenir et une relique précieuse de l'ancienne église. Voilà, donc on constate un souci patrimonial qui contraste beaucoup avec les pratiques courantes à l'époque, surtout à l'égard des œuvres très mal aimées des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, la chaire à prêcher. Donc, la chaire à prêcher, c'est actuellement l'élément mobilier le plus ancien de la basilique actuelle, si on accepte bien sûr la statue elle-même. Alors, cette chaire, comme je l'ai dit, faute de source, n'est pas directement documentée, mais son style permet une datation assez large aux années 1670-90. C'est une époque où la ville de Dax comptait d'importants ateliers de maîtres sculpteurs, comme les Giraud, les Roger ou les Montballon, voilà des noms qui ne diront pas sans doute grand-chose à mes auditeurs, mais enfin voilà, donc il y avait beaucoup d'excellents praticiens à l'époque à Dax. Je pense qu'a priori, il ne faut pas aller chercher une fabrication extrêmement lointaine pour cet objet. C'est aussi le cas pour... Ah, ben décidément. Non, je crois qu'il y a vraiment un problème, je ne sais pas pourquoi. Non, pardon. Je vais mettre mes lunettes, ce sera peut-être plus simple. Alors, oui, voilà. Donc, je passe un petit peu cette chaire. Je vous montre pour comparaison la chaire de l'église de Candresse, donc tout à côté de Dax et de Buglose, qui est une chaire d'un style et d'une datation extrêmement proche de celle de Buglose. Voilà, qui est un fort beau meuble. On sait que le décor de ces meubles à l'époque était le plus souvent inspiré de recueils gravés d'ornements dans le style de Jean Marot ou de Jean Lepôtre. Vous avez par exemple ici le décor, le très très beau décor de la chaire, de la rampe de la chaire de Candresse, avec ses angelots s'égayant un peu dans des rinceaux d'acanthe, et vous voyez le rapport direct avec ce recueil d'ornements qui s'appelle les frises et ornement à la moderne de Jean Lepôtre. Donc voilà, pour situer un petit peu, ça permet d'ailleurs de donner des limites chronologiques quand on voit que tel décor est inspiré de tel recueil paru à telle date. Voilà. Pour revenir à Buglose, voilà, vous voyez l'extrême qualité, la très très bonne qualité des reliefs de la chaire de Buglose. Donc ces scènes de la vie de la Vierge, évidemment, sanctuaire marial oblige, tout le décor de la chaire est dédié à la vie de Marie. Vous voyez donc ces superbes panneaux qui sont assez directement inspirés de gravures du milieu du XVIIe siècle, sans doute antérieures d'une trentaine d'années, dans le goût de Jacques Stella, donc un des grands tenants, des grands acteurs de la scène artistique parisienne dans les années de la régence d'Anne d'Autriche. Le meuble, sur lequel je reviens, le meuble a été relativement, de manière assez discrète, on va dire, restauré en 1855, puisqu'il était tout de même dans un état de délabrement assez avancé, on suppose, restauré par le sculpteur Vincent Saint-Sébastien, qu'on va retrouver plus tard à propos du décor sculpté de la nouvelle église. Bon, je ne vais pas détailler, mais l'abat-voix, le support de la cuve et une partie de l'escalier ont été restitués à cette occasion, mais l'essentiel est préservé, notamment donc ces très très beaux reliefs qu'on voit sur le dorsal et sur la cuve et sur l'escalier. Donc l'un des très rares témoignages avec la chaire de Candresse de cette époque, de cet âge d'or, on peut le dire, de la prédication, puisqu'on est là, à l'époque évidemment de Bossuet, de Massillon, tous ces grands noms de la prédication française. Alors, une autre pièce majeure de l'ancienne chapelle qui a été conservée, c'est donc l'ancien maître-autel, qui est plus tardif et de moindre qualité tout de même que la chaire. Il est également plus hétérogène, puisque le tombeau d'autel a probablement été remplacé vers 1770 ou 1780. Le tabernacle, dont le décor est lui aussi presque entièrement consacré à la Vierge, évidemment. Vous voyez ici l'Assomption et le couronnement. Le tabernacle donc date probablement des années 1730 ou 40. La sculpture, je ne sais pas si la photo est suffisamment explicite, mais est nettement moins fouillée, moins fine que celle de la chaire. Là, on est à une époque peut-être, je ne sais pas si c'est une création d'Aquoise, mais apparemment le niveau de qualité des artistes locaux avait dû baisser assez sensiblement. Alors, les quatre statuettes que vous voyez sur les photos en noir et blanc ont malheureusement été volées dans les années 80. On y voyait, tout à fait traditionnellement, Saint-Pierre et Saint-Paul, bien sûr, les deux cofondateurs de l'Église, l'Église avec un grand E, bien sûr, et de manière plus originale, Saint-Vincent de Paul, donc, qui était tout récemment canonisé, que vous voyez sur la photo du haut à gauche, et un Saint-Évêque mitré, qui est probablement Saint-Vincent de Sainte, donc le fondateur semi-mythique du diocèse de Dax. Alors, l'autel est aujourd'hui relégué, on peut dire, dans une chapelle à l'entrée de la basilique, mais on connaît à peu près la disposition d'origine dans l'ancienne chapelle grâce à une petite vignette que voici, une petite vignette qui a été très schématique, donc, qui a été publiée pour le bulletin de souscription de 1848 en faveur de la reconstruction de l'église. Pour la construction donc, de l'église actuelle. Et on y voit la statue de la Vierge placée dans une niche, dans un lambris très certainement en bois sombre, en bois de chêne, au-dessus de l'autel. Donc voilà cette disposition d'une assez modeste, bon, d'un édifice qui lui-même était certainement assez modeste, mais qu'on n'en ait pas de représentation fiable en tout cas. Le dernier ensemble conservé de l'Ancien Régime, conservé très partiellement, c'est le décor de la chapelle dédiée à Saint-Vincent de Paul, donc dans le collatéral sud de la première chapelle, de la première église. Alors, il n'en reste aujourd'hui que trois éléments, puisque l'autel lui-même et la structure du retable qui le surmontait ont été supprimés lors de la reconstruction des années 1850. Et on n'en possède, à ma connaissance, aucune représentation. Alors, le retable était assez original, puisqu'il devait comporter au centre, au lieu du tableau d'autel traditionnel, une niche centrale qui abritait la statue du saint titulaire, donc Vincent de Paul, flanquée de deux panneaux sculptés en pendant, que je vous montre. Voilà. Alors, la statue, pour ceux qui connaissent Saint-Pierre de Rome, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est la reproduction en bois, assez fidèle, comme vous le voyez, d'un modèle célèbre, la statue exécutée par Pietro Bracci pour la nef de Saint-Pierre de Rome en 1754, date qui fournit d'ailleurs un repère chronologique pour l'autel de Buglose, l'ensemble de Buglose. Donc cette statue de Bracci, bien sûr, qui avait été faite pour la grande série des fondateurs d'ordre dont les statues occupent les niches de la nef centrale de Saint-Pierre de Rome. Voilà donc cette statue qui est évidemment d'une qualité différente de l'original en marbre, puisque c'est du bois déjà, et elle a été recouverte de plusieurs couches de polychromie qui ne lui rendent certainement pas justice. Alors les deux reliefs, donc qui, je le rappelle, flanquaient de part et d'autre la statue, alors, ne tenez pas compte des cadres, bien sûr, qui ont été refaits en 1855 par le sculpteur bordelais Bernard Jabouin, qu'on va retrouver également. Ces deux reliefs occupaient les ailes du retable et ils formaient une unité iconographique avec la statue, puisqu'ils figurent, bien sûr, les deux fondations du saint, les lazaristes, que vous voyez ici, qui étaient placés à dextre, bien sûr, la place d'honneur, et les filles de la charité, qui étaient installées à Senestre. Bon, je ne détaille pas trop l'iconographie, il n'y a pas évidemment que les religieuses, il y a également ici de nobles dames qui avaient aidé Saint-Vincent de Paul à l'origine lors de la fondation de ses ordres, ici des prêtres de la mission, bon, je ne détaille pas. Il faut noter cependant la présence donc ici d'un jeune manchot et là de deux petits orphelins, bien sûr tous en prière devant leur saint fondateur, et donc un détail qui permet de mettre l'accent sur la fonction caritative, bien sûr, de ces deux institutions. Alors la disposition originelle, malgré la disparition du retable, a été conservée lors du remploi en 1855, comme le montre cette photographie qui est antérieure aux années 1960. Donc l'hôtel, évidemment, c'est un hôtel de Bernard Jabouin, précisément, qui a été créé pour la nouvelle église. Mais on voit que les trois vestiges de l'ancien décor ont été remployés de manière à évoquer l'ancienne disposition dans la première chapelle. Alors la cohésion entre ces différents éléments est aujourd'hui moins évidente puisque l'hôtel a été déplacé sur le côté de gauche de la chapelle. Vous le verrez peut-être tout à l'heure dans la basilique elle-même. On a cependant rétabli l'ordre des deux reliefs qui, à un moment, avaient été intervertis. C'est-à-dire qu'on avait mis les lazaristes à droite et les filles de la charité à gauche, ce qui fait qu'ils tournaient leur regard et ils accomplissaient leurs gestes déictiques, dit-on, vers le spectateur ou vers le fidèle, et non pas vers le saint auquel s'adresse leur prière, ce qui était tout de même un contresens absolu. Donc au moins cela a été rectifié depuis lors. Voilà, bon, je me suis étendu assez longuement sur ces reliques, hein, comme les appelait l'abbé Vieilldan, ces reliques de l'ancienne chapelle, qui sont d'autant plus précieuses que beaucoup d'autres œuvres ont disparu sans laisser de traces. L'abbé Vieilldan cite par exemple les vieux tableaux de l'ancien hôtel qui ont été mis en vente en juillet 1858, ou l'ancien hôtel en marbre de Sainte-Madeleine qui a été vendu en avril 1859. Bon, il ne faut pas présumer de la qualité ou de la non-qualité de ces œuvres, mais enfin, on peut tout de même regretter leur disparition. Alors, dans une seconde partie plus ramassée, j'espère, je parlerai donc de la constitution du décor et du mobilier de la nouvelle église, bâtie à partir de 1850, donc sous l'égide, cette fois-ci, des missionnaires diocésains qui reprennent les rênes du sanctuaire, on l'a dit, en 1844, par la grâce de Mgr Lannelluc. Comme je l'ai dit, ces campagnes de travaux et d'acquisition sont très très bien documentées par les archives de la fabrique, qui conservent, outre les livres de compte, des listes de donateurs avec la destination précise de leurs dons. Certains disaient « je veux que mon argent aille à l'achat d'un vitrail ou d'un hôtel ». Et donc ces livres de compte et également de très nombreuses factures d'artisans ou de marchands spécialisés. Je vous en montre une à titre d'exemple. Voici, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec le mobilier puisque c'est une facture d'un plombier zingueur à la fin du siècle. Mais enfin bon, l'entête est tellement superbe que je n'ai pas pu résister à l'insérer dans mon PowerPoint. Voilà, alors hormis les quelques remplois ponctuels dont je viens de parler, qui sont dus pour l'essentiel, je l'ai dit, au sauvetage effectué par l'abbé Vieilldan, l'ameublement et la décoration du nouveau sanctuaire procèdent d'un plan concerté qui visait à une harmonie stylistique avec le nouveau cadre architectural néo-roman. La cheville ouvrière de ce plan, du moins dans les premiers temps du chantier, semble être justement le même abbé Vieilldan, en accord étroit avec l'évêque, donc Mgr Lannelluc, avec les missionnaires, en l'occurrence le père Antoine Lamaison, qui est supérieur de Buglose à partir de 1855, donc trois acteurs ecclésiastiques, si on peut dire, et évidemment les architectes successifs de l'œuvre, de la construction, qui sont Jules Sibien, c'est un architecte qui était localisé, qui travaillait dans les Landes, hein, qui était architecte départemental et diocésain des Landes, et qui cède le pas, quelques années plus tard, à Gustave Allot, architecte bordelais assez bien connu. Alors, la définition du programme iconographique du décor de la nouvelle église est certainement due, comme il est ordinaire, aux commanditaires ecclésiastiques eux-mêmes, Vieilldan au premier chef, comme le prouve le rapport dont j'ai parlé, le rapport de 1855 qu'il présente à l'évêque, un rapport qui détaille abondamment la symbolique du décor sculpté qui est alors en cours de réalisation. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. L'axe principal de ce programme, c'est évidemment la figure mariale, hein, puisque tout sanctuaire, le sanctuaire de Buglose, bien sûr, figure mariale qui est exaltée du triple point de vue hagiographique, symbolique et historique. Bon, je n'aurai pas le temps de détailler évidemment tout cela, je vous renvoie un petit peu au dictionnaire illustré. Voilà, donc une thématique qui est développée à travers essentiellement le décor vitré, le décor sculpté et le décor peint. Alors, en revanche, la constitution des équipes chargées de l'exécution de ce programme semble avoir été déterminée par une concertation entre Vieille Dent, le père La Maison et les deux architectes successifs, chacun de ces décideurs, entre guillemets, ayant adjoint au chantier un ou plusieurs artistes ou artisans de son choix. Voilà, on va le voir au gré de liens professionnels et parfois même familiaux, une découverte récente. Alors on identifie ainsi de véritables réseaux de collaborateurs qui ont été cooptés un peu au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Je ne vais pas détailler toutes les ramifications de ce réseau parce qu'une communication n'y suffirait pas. Quelques exemples donc suffiront. Ainsi, l'abbé Vieille Dent, qui était un ancien vicaire à Clermont-Ferrand avant de devenir le trésorier de Buglose, l'abbé Vieille Dent recrute pour les premières verrières du chœur, voilà, un verrier qui s'appelle Émile Thibault et qui était un verrier à Clermont-Ferrand précisément. Donc il l'a certainement côtoyé, l'abbé Vieille Dent, pendant sa période auvergnate. Et il l'a recommandé, Émile Thibault avait une réputation déjà nationale et même internationale à l'époque, donc en 1854-1855. Et quand Thibault abandonne le chantier, il n'a fait que quelques verrières pour le chœur et il a ensuite passé la main. Eh bien, c'est tout naturellement son ancien assistant et directeur d'atelier qui s'appelait Joseph Villiers. Joseph Villiers, qui est bordelais depuis 1852. C'était alors un jeune homme qui voilà, cherchait un peu un terrain vierge pour créer sa propre entreprise. Bordeaux était alors dépourvu de véritables ateliers de verrières. Et donc Villiers prend la relève de son ancien maître et patron à partir de 1863. Donc on pourrait croire que c'est Thibault qui le recommande, mais il faut prendre plusieurs paramètres en compte, puisque Villiers est aussi un protégé de très près du cardinal Daunet, donc le tout-puissant archevêque de Bordeaux. Et Villiers est enfin l'ami intime, on le sait par leur correspondance, l'ami intime et le collaborateur privilégié de l'architecte Gustave Allot, donc qui prend la direction du chantier de Buglose précisément en 1863. Donc on voit que les liens s'entrecroisent et qu'il est parfois un peu difficile de faire la part de l'influence de tel ou tel acteur de la construction pour le choix de tel ou tel artiste. Alors les choses sont un petit peu plus nettes en ce qui concerne le décor sculpté, puisque dans ce domaine qui est en lien étroit avec l'architecture, il semble bien que ce sont les architectes qui ont eu la voix prépondérante sur le sujet. Alors le premier architecte dont si bien recrute un Montpelliérain qui s'appelle Jean Lérolle. Ah pardon, alors voici encore quelques verrières de Villiers. Je suis désolé, mais on n'aura évidemment pas le temps de développer tout le programme extrêmement complexe et extrêmement riche donc de ces verrières. Bon, on verra peut-être tout à l'heure si on a le temps de faire un tour de la basilique. Pardon, je vais dans le mauvais sens. Alors voici donc ce sculpteur de Montpellier, mais qui s'est installé à Bayonne, puisqu'il avait épousé une bayonnaise, bon, je vous passe les détails, qui est recruté donc certainement par Jules Sibien, donc le premier architecte de la basilique, puisqu'il avait déjà travaillé avec lui à Saint-Sevé en 1849, et parallèlement aux travaux de Buglose, il collabore également avec lui à la construction des églises de Sanguinet et de Gabaret. Donc il y a vraiment des chantiers parallèles où Jules Sibien fait un peu suivre son équipe et l'impose au maître d'ouvrage de ces chantiers successifs. Alors, avec le retrait de Jules Sibien, donc, qui achève la première tranche de travaux, qui, pour diverses raisons, parfois un peu mystérieuses, abandonne le chantier et passe la main donc, à Gustave Allot. Et quand Allot arrive, s'opère alors un changement complet d'équipe, un changement marqué par un tropisme bordelais très prononcé, on va le voir. Tout d'abord, donc, à la sculpture monumentale, c'est un Nantais, mais un Nantais installé à Bordeaux, qui s'appelle Aristide Belloc, qui prend le relais donc, en 1861. Et deux ans plus tard, en 1863, c'est un Palois, mais aussi bordelais d'adoption, qui s'appelle Vincent Saint-Sébastien, je vous en ai déjà parlé à propos de la chaire, donc qui prend le relais donc, en 1863. Alors, voici ici deux œuvres parmi des centaines. Hein. L'église de Buglose possède, je ne sais plus, je crois qu'il y a à peu près presque 200 chapiteaux et culots, des clés de voûte. Bon, c'est un monde en soi. Voici donc deux œuvres, dont la clé de voûte qui a un peu permis, qui a marqué l'achèvement du chantier avec les armoiries, évidemment, de l'empereur, de Napoléon III, en 1866, je crois. Voilà, donc ces deux sculpteurs, donc Aristide Belloc et Vincent Saint-Sébastien, ce sont deux collaborateurs d'Allo, ils ont déjà travaillé pour lui à Bordeaux et dans d'autres chantiers. Je vous passe les détails, Mugron, Rion des Landes, etc. Mais, et là je dois ce détail à Dominique Bopp, une preuve supplémentaire du croisement des liens que j'ai évoqués, c'est que ces deux sculpteurs, Belloc et Saint-Sébastien, ont aussi un lien très direct avec un autre acteur du chantier, puisque tous les deux ont épousé les deux nièces du père Lamaison, le supérieur de Buglos. Donc on voit que là, les liens familiaux ont dû intervenir, ont dû agir d'assez forte manière. Voilà, de l'importance donc de la généalogie, souvent en histoire de l'art. On peut également souligner donc les relations à la fois professionnelles et amicales qu'entretient Gustave Allo avec deux autres Bordelais. Donc vraiment, là, l'équipe est quasiment à 100% bordelaise. Donc des acteurs importants dans la constitution du mobilier de Buglos. Le marbrier Bernard Jabouin, je l'ai déjà cité tout à l'heure. Voilà, le marbrier Bernard Jabouin qui fournit deux hôtels en 1857. Dédié à Sainte-Madeleine, mais cet hôtel a disparu, et l'hôtel de Saint-Vincent-de-Paul que vous voyez ici, avec détail. Voilà, en lieu et place du tabernacle, vous voyez qu'il y a un reliquaire, puisque la maison de la mission à Paris avait accordé deux fragments du corps de Saint-Vincent au sanctuaire de Buglos, et donc il a fallu bien sûr les présenter dignement à la dévotion des fidèles. Donc cette châsse reliquaire qui est due à un bronzier et orfèvre célèbre qui s'appelle Louis Bachelet, qui était un collaborateur très assidu de Viollet-le-Duc, vraiment l'élite de l'orfèvrerie parisienne à l'époque. Voilà, donc je vous parlais donc des liens de Gustave Allo avec Bernard Jabouin et également avec Bernard Larocque, qui lui était spécialisé dans la fabrication de mobilier en bois et qui est l'auteur de l'importante série de 12 confessionnaux fournis donc à l'église de Buglos en 1865. 12 confessionnaux, évidemment, une église de pèlerinage dédiée à la pénitence et donc l'importance d'avoir un fort contingent de confessionnaux. Alors de fait, si la construction matérielle de l'église elle-même est due à des artisans locaux, le plus souvent des entreprises familiales dacquoises, les Legrand, les Loquet, etc., le décor et le mobilier sont presque entièrement donc importés de Bordeaux jusqu'à la table de communion qui est fournie par le serrurier bordelais Lannes en 1862. Et dans cette première phase de réalisation, donc avant la translation de la statue en 1855, on a fait appel en fait qu'à un seul artiste local, qui est le peintre montois de Mont-de-Marsan, Louis-Anselme Longa, à l'occasion donc de cette inauguration de mai 1855. On le verra, il ne reste d'ailleurs pas grand-chose du décor peint qu'il a réalisé à cette occasion, donc, puisqu'il y a eu beaucoup de réfections au début du XXe siècle. Alors, une particularité de la construction de l'église de Buglos, c'est que la décoration et l'ameublement ont été réalisés au fur et à mesure de l'avancée des travaux de construction, y compris pour les verrières et les peintures murales. C'est bien sûr une option assez peu fréquente au XIXe siècle, où on préfère évidemment terminer une construction, ou du moins, parfois on laisse le clocher un peu quand les fonds, quand les finances font défaut, mais généralement on achève une construction avant de s'attaquer à la peinture murale et à poser des verrières, qui sont des éléments extrêmement fragiles qui pourraient être dont la sécurité pourrait être compromise par le déroulement des travaux suivants. Bon, à Buglos, on a pris l'option inverse. Ça s'explique évidemment par la volonté de Mgr Lannelluc et des missionnaires de procéder le plus rapidement possible à la translation de la statue et à, non pas la consécration, mais l'inauguration. Donc c'est bien sûr cette volonté qui a imposé cette hâte un peu assez inhabituelle. D'ailleurs, la correspondance entre l'évêque et l'abbé Vieille-Dent est très explicite à ce sujet, où l'évêque fouette un petit peu son conseiller pour précipiter l'achèvement des travaux. Donc notamment sur l'urgence de terminer l'aménagement du chœur. Évidemment, c'est le chœur qui compte dans une telle optique, avant donc les grandes cérémonies de mai et de juin 1855. À l'époque, les très nombreux dons enregistrés au début du chantier permettaient de financer assez facilement cette première phase, et donc il n'y a pas eu de difficulté de ce côté-là. Les registres de dépenses en témoignent également. Voici donc un extrait du registre de compte pour le mois d'avril 1855, c'est-à-dire un mois avant les grandes cérémonies. Et on voit qu'on s'est un peu précipité pour régler la facture du fournisseur de l'hôtel, sur lequel je vais revenir, des verrières donc d'Émile Thibault et des peintures de Longa. Tout ça pour des sommes assez importantes. Et là, ce n'est évidemment que le solde du paiement. Alors c'est donc le chœur qui a fait l'objet des premiers efforts d'ameublement. Cette partie évidemment principale de l'église a beaucoup changé depuis le Second Empire, et il faut avoir recours à des documents anciens pour s'en faire une idée précise. Comme je l'ai dit, cette campagne a fait travailler de front une équipe d'artistes de provenances diverses, au contraire de celle des années 1860 qui est exclusivement bordelaise. Donc Jean Lérolle, je l'ai déjà évoqué, pour les chapiteaux, qui illustre l'histoire du pèlerinage de Buglose et de la découverte de la statue, de la construction de la première chapelle. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça. Et également la décoration de la niche, de la très riche niche qui est destinée à abriter la statue. Je vous ai montré une photo au début, je n'y reviens pas peut-être, pour ne pas perdre trop de temps. Et parallèlement à ces décors de sculpture, le peintre donc Longa de Mont-de-Marsan réalise le décor mural, avec des peintures ornementales qui étaient en fait des fausses tentures damassées, aujourd'hui disparues. Et il ne subsiste de ce décor initial à peu près que les deux anges que vous voyez ici, qui sont placés au-dessus de la niche de la statue, et qui représentent bien sûr le couronnement de rose et de lys, les deux fleurs mariales donc, de la statue. Alors la pièce maîtresse de ce mobilier du chœur, c'était évidemment le maître-autel. Maître-autel qui était destiné à remplacer le meuble 18e que je vous ai montré tout à l'heure, qui était évidemment hors d'échelle et surtout hors style pour la nouvelle église dont l'ambition des constructeurs était d'avoir une homogénéité, une unité stylistique, un peu dans l'optique de Viollet-le-Duc. Alors ce meuble a été fabriqué par la maison bordelaise Dau et Compagnie, dirigé à l'époque par Pierre-Louis Dau, mais il a été fourni, fabriqué à Bordeaux et vendu par la succursale dacquoise de la maison, qui était tenue par le fils de Dau, Jean-Alfred. Voilà, pour la petite histoire. Ça, c'est un détail qu'on a découvert grâce au registre de compte, puisqu'il n'était pas autrement documenté. Alors, il s'agissait d'un meuble monumental en marbre blanc, en chêne et en bronze doré, qui formait une composition unitaire avec la niche et la statue et le vitrail de Thibault qui le surmontait. Regardez la photo de gauche, donc où on voit le décor encore intact au début du XXe siècle. Ce vitrail de Thibault qui surmontait, couronnait cette composition verticale, c'était celui qui montrait Monseigneur Lanelluc, donc l'évêque, offrant l'église de Buglose à la Vierge. Bon, évidemment, ce n'est pas un hasard si on avait placé précisément ce vitrail-là au sommet de la composition. Malheureusement, il ne s'y trouve plus aujourd'hui. Je vais revenir, si j'ai le temps, je reviendrai sur ce détail à la toute fin de la communication. Donc voilà, on voit vraiment une composition qui est un petit peu noyée dans l'abondance, la surabondance décorative qui s'est accumulée au fil des années. Mais on voit vraiment la composition d'origine, c'est-à-dire ce maître-autel assez monumental, surmonté par cette niche extrêmement riche avec la statue de la Vierge, et donc parachevé par ce vitrail votif, donc où on voit l'évêque offrant son église. Donc un élan ascensionnel assez spectaculaire et d'aucuns diraient peut-être assez théâtral. Le décor de l'autel lui-même, voilà, lui était entièrement christocentré. On voyait le bon pasteur, les évangélistes, les apôtres et les saints patrons du diocèse dans ces petites niches. Bon, un aspect assez massif, hein, comme vous voyez. Cet autel ne comportait aucune représentation directe de la Vierge, ce qui n'est pas trop surprenant, puisque je pense qu'on n'a pas voulu, entre guillemets, concurrencer la vision de la statue, vénérée et vénérable qui se trouvait dans la niche au-dessus. Donc il faut imaginer cette composition encadrée, comme ici toujours à gauche, par des dizaines et des dizaines d'ex-voto de toutes sortes, des plaques de marbre, mais aussi des petits objets en métal plus ou moins précieux, des petits cadres, voire des photographies à partir d'une certaine époque. Voilà, tout cela faisait une sorte d'escorte chaleureuse à la composition centrale avec le maître-autel et la statue. Ces ex-voto qui remplaçaient partiellement les 27 plaquettes d'argent qui avaient été recensées dans l'inventaire en août 1790 et qui avaient été, bien sûr, envoyées à la fonte. Alors, l'ameublement du chœur n'a été complété que tardivement, à l'initiative de l'évêque Monseigneur Delannoy, avec la commande de stalles. Alors, il ne faut considérer que les stalles qui se trouvent sur les murs nord et sud du chœur. Donc, ces stalles qui avaient été commandées par Victor Delannoy à un fabricant de Lille, Charles Buisine, en 1891. On se souvient que Victor Delannoy est lui-même originaire de la région de Lille. Et donc, voilà, je pense qu'il a voulu faire travailler quelqu'un qu'il connaissait de longue date également. C'est d'ailleurs la même maison, Buisine, qu'a choisi l'évêque pour le maître-autel qu'il destinait à la cathédrale d'Aire, mais qui avait été refusé par les chanoines d'Aire, qui étaient un peu en délicatesse avec l'évêque à ce moment-là. Bon, bref, ils ont refusé cet autel qui se trouve aujourd'hui, après bien des péripéties, à l'église de Poyartin. Donc cet autel extrêmement spectaculaire, voilà, qui est un peu écrasé d'ailleurs dans le cadre un peu plus restreint de l'église de Poyartin. Alors, comme le montre l'état actuel des stalles, donc vous voyez qu'il y a, outre les stalles d'origine qui sont sur les côtés, ces stalles du fond du chœur qui ont été installées là en 1960 et qui proviennent de, j'y reviendrai tout à l'heure, du grand séminaire, voilà, qui ont été réinstallées après le réaménagement complet du chœur en 1960. En revanche, la constitution... Pardon, je reprends une mauvaise page. Voilà. Donc, il faut également restituer mentalement, pour avoir un peu l'ambiance du chœur de Buglose vers 1900, ici, évidemment, la présence dans l'arcade nord du chœur, côté évangile, du trône épiscopal, dont je ne sais pas d'ailleurs s'il était installé là en permanence ou seulement à l'occasion des grandes cérémonies solennelles. Bon, ça, je ne sais pas trop. Les éléments en sont tous conservés, mais bien sûr, désormais à la sacristie. Alors évidemment, il ne m'est pas possible de parler dans le cadre de cette communication de tous les aménagements réalisés au début du chantier de Buglose. Je signalerai seulement pour mémoire, parce qu'ils ont été un peu maltraités par l'historiographie, ces deux reliefs de la vie de Sainte-Madeleine, qui sont aujourd'hui les seuls éléments subsistants donc, de ce décor de la chapelle Sainte-Madeleine, puisque l'autel a été, pour une raison inconnue de moi, supprimé. Ces deux reliefs donc, qui ont été parfois datés du XVIIIe siècle, et Cazonneau et Lesbas, donc les auteurs du premier dictionnaire, les avaient correctement redatés du XIXe, mais pensaient qu'il s'agissait d'œuvres d'art populaire. Eh bien, il n'en est rien, puisque les factures en sont conservées dans les archives, et il s'agit de créations d'après des dessins d'Émile Thibault, donc Émile Thibault, notre verrier de tout à l'heure, qui n'était pas seulement verrier, mais qui était également concepteur de mobilier religieux, notamment à l'église de Maringues, dans le Puy-de-Dôme, où il a dessiné tout le mobilier la même année, 1856, donc l'année de ces deux reliefs de Sainte-Madeleine. Bon, je n'insiste pas davantage. J'évoquerai alors aussi très très rapidement la transformation à la fin du XIXe siècle de la chapelle du Rosaire en une nécropole épiscopale, que voici, avec les deux tombeaux monumentaux donc des évêques Épivant et Delannoy. Bon, des tombeaux qui sont quand même trop connus pour que j'ai besoin de m'apesantir outre mesure. Le premier est dû à Aristide Belloc, vous en souvenez, qui avait travaillé dès 1855 aux sculptures, aux clés de voûte de la nouvelle église, et qui revient donc en 1877 pour ce tombeau monumental néo-médiéval. Bon, enfin voilà, stylistiquement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et le second tombeau qui est placé en pendant, en vis-à-vis, c'est celui bien sûr, de Monseigneur Delannoy, qui est l'œuvre du comte Clément d'Astanière, qui est un sculpteur de très grand talent, qui n'a certainement pas la réputation qu'il mériterait. Il a créé notamment un très très beau Saint-Joseph, Saint-Joseph à l'enfant, qui est dans une chapelle, la chapelle droite, chapelle sud de la basilique, vous verrez peut-être, en 1913. Bon, je ne m'attarde pas non plus. Et donc je me permets, à propos de ces œuvres tout de même majeures, de renvoyer donc aux notices du dictionnaire illustré, pour plus de détails. Commencer l'apport précisément de Monseigneur Delannoy, dont on voit le tombeau au sanctuaire de Buglos, c'est le très fameux carillon, constitué de 1894 à 1925, auprès des fondeurs Paccard et Dancos. Évidemment, cela ne concerne pas directement mon sujet sur le mobilier. Je laisserai bien sûr Denis Villeneuve en dire tout ce qu'il faut savoir à l'issue de cette communication. Alors, pour conclure, je présenterai en quelques mots les principales transformations qu'a connues le décor intérieur de l'église au XXe siècle. Alors, jusqu'aux années 50, ces modifications sont minimes. Elles ne changent pas en profondeur l'aménagement légué par le XIXe siècle. Le seul travail notable, Dominique Bob y a fait allusion ce matin, au moment du jubilé de Monseigneur de Cormont, c'est donc en 1925 où on choisit de renouveler presque entièrement le décor peint du chœur, qui était, je présume, passablement dégradé par l'humidité, les infiltrations. On le voit d'ailleurs sur certaines photos, certaines cartes postales des années 1900-1910. Donc ce nouveau décor, il est dû au Bordelais, encore des Bordelais, Ernest Leduc et son assistant Louis Gouillot, donc, qui crée un très beau décor de fausses mosaïques à fond d'or, d'un style néo-roman qui est en harmonie, bien sûr, avec le cadre architectural. On a vraiment joué la continuité avec le décor du 19e. Il n'y a pas du tout de volonté de rupture, pour le coup, sur ce décor. On en profite cependant pour éliminer l'un des éléments les plus frappants du décor 19e. Ce sont bien sûr les ex-voto dont je vous ai parlé, qui tapissaient entièrement les murs de l'abside et les murs de la travée droite du chœur. Des ex-voto qui sont désormais répartis dans d'autres espaces de l'église, notamment le porche, vous voyez, dans toutes ces plaques de marbre qui ont été réincrustées, si on peut dire, dans les lunettes de la voûte et dans les piliers donc du porche. Il y a d'autres éléments de ce décor d'ex-voto qui sont ailleurs dans l'édifice. Alors donc, jusqu'aux années 50, jusqu'à l'après-guerre, pas vraiment de remodelage du décor intérieur, mais en revanche, c'est la campagne de restauration des années 1959-1960 qui a bouleversé de manière beaucoup plus radicale l'état antérieur. Cette campagne faisait partie d'un vaste plan de rénovation du sanctuaire et de ses abords par l'architecte de Dax, René Guichemer. Donc c'est un plan qui comprenait la reconstruction presque totale de la chapelle des Miracles, hein, qu'on a évoquée également ce matin avec son toit très, très caractéristique, le réaménagement du parc des pèlerins et, en dernier lieu, la restauration de l'église elle-même, l'église qui n'est pas encore basilique. Alors pour cette restauration, la réflexion a porté principalement sur l'espace liturgique, c'est-à-dire le chœur en priorité. Une réflexion qui a été confiée au père lazariste Louis Pelletier, un Toulousain, qui a défini les grandes lignes du projet et qui a livré ses préconisations à l'architecte, donc à René Guichemer. La réalisation, bon, je ne vais pas détailler toute la philosophie qui sous-tend ce projet, bon, qui est très imprégnée de la pensée des pères couturiers régamés sur le renouveau de l'art sacré, bon, des choses qui datent de l'entre-deux-guerres, voilà, sur ce renouveau à partir des œuvres d'art authentiques et non pas de l'art dit sulpicien. Voilà. Donc cette réalisation a abouti à une épuration assez poussée. À une épuration assez poussée du décor néo-roman, donc du chœur de Buglos, moins cependant qu'à l'église Saint-Vincent de Xaint à Dax, pour ceux qui le connaissent, où là vraiment qui a été confié au même René Guichemer, et où là la rénovation a abouti à la suppression du total du décor qui a pourtant été conçu par l'architecte lui-même à la fin du 19e siècle. Bon, à Buglose, la volonté d'épuration a été un peu plus modérée. Bien sûr, on connaît la détestation affichée de ces réformateurs envers l'art qu'ils disent sulpicien, qui est accusé à l'époque de mercantilisme et de vide spirituel. Et à propos du maître-autel de 1855 que je vous ai montré tout à l'heure, le père Pelletier parlait, adressé dans une lettre adressée à l'évêque Mgr Mathieu, parlait par exemple d'un ouvrage en toc et qu'il proposait donc à l'évêque d'éliminer purement et simplement et de remplacer par un autel bas en marbre, simple de lignes pour ne pas couper la perspective et la vue sur le fond. Donc il y avait vraiment une volonté de dégager un petit peu l'espace qui pouvait effectivement à juste titre sembler trop encombré, un peu bric-à-brac, pour parler vulgairement. Donc, on supprime cet autel de 1855, dont je n'ai pas retrouvé la trace. Je pense que d'autres meubles ont été réaffectés, redonnés à différentes paroisses des environs, mais le maître-autel, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc, le père Pelletier ne se contente pas de donner ses préconisations, il donne aussi des dessins du futur maître-autel destiné à remplacer, donc, celui de 1855. Voici son premier projet. Et le deuxième, très proche, hein, vous voyez que c'est un peu des changements à la marge. Voilà, c'est le deuxième qui sera choisi. Cette fois-ci, il n'est pas question d'employer de le faire venir de l'autre bout de la région. Donc ce sont deux artisans locaux de Dax, le marbrier Dupin et le ferronnier Bédat, qui exécute donc ce nouveau maître-autel, qui est inauguré en décembre 1960. Et comme l'écrit alors le journal Buglose, je cite, « On admire et on se tait ». Voilà, donc la critique n'était pas de mise. Le meuble n'a plus bougé depuis lors, à l'exception, alors le voici dans son état actuel, à l'exception du tabernacle qui a été retiré, bien sûr, après le Concile Vatican II, pour pouvoir dire la messe face au peuple sans obstacle. Dans la même foulée, on a supprimé, l'architecte Guichemer a supprimé la quasi-totalité des peintures murales qui avaient été exécutées pour le jubilé de Mgr de Cormont en 1925. Il a toutefois conservé toutes celles qui entourent qui sont sur les pans coupés de l'abside, donc qui entourent la statue de la Vierge. Et heureusement, voilà, il fallait au moins conserver cela. Il a également allégé considérablement le décor des luminaires qui était, bon, je ne sais pas si je vais vous remontrer la photo. Elle est un peu lointaine. Voilà, vous voyez ici à droite, par exemple, l'état vers 1950. Où vous avez tous ces luminaires un petit peu envahissants, il faut le reconnaître. Donc voilà, on a épuré un peu tout ce décor en 1960. Voilà. Et alors, pour meubler tout de même le vide qui était laissé par la suppression du maître-autel, qui dégageait donc quasiment les trois travées de l'abside, donc... Guichemer, non, plutôt c'est le père le Pelletier, pardon, qui a eu l'idée assez heureuse de récupérer donc au grand séminaire d'Aire les stalles qui avaient été exécutées en 1900 par un menuisier local qui s'appelait Édouard Casalis, toujours à la demande de Mgr Delannoy, et Mgr Delannoy avait demandé à prendre modèle sur les stalles récemment mises en place à Buglose. Donc on a une parfaite continuité décorative et stylistique entre les stalles de Buisine, donc on voit à droite et à gauche, et les stalles de Casalis, qu'on a réinsérées avec beaucoup d'habileté, il faut le dire, dans le décor de Buglose après 1960. L'avantage, c'est qu'il y a cette fois-ci une cathèdre épiscopale qui est placée dans l'axe de la composition, donc sous la statue de la Vierge, et le père Pelletier appuie beaucoup auprès de Mgr Mathieu sur cet aspect de mise en scène, mais enfin d'exaltation un peu de la fonction épiscopale grâce à cette cathèdre judicieusement placée. Voilà, donc une solution tout à fait heureuse pour pallier désormais le vide créé par la suppression du décor 19e. Alors, une initiative plus contestable en revanche, c'est le réagencement des verrières du cœur et de la nef. Ça, c'était une idée du père Robert, dans le supérieur du sanctuaire. Le but déclaré était d'établir une séquence chronologique cohérente de la vie de la Vierge, puisque la plupart des verrières de Thibaut et de Villiers représentent des scènes, les mystères joyeux, les mystères douloureux, voilà, les mystères du rosaire, de la vie de la Vierge. D'ailleurs, cette parfaite cohérence n'a pas été vraiment réalisée, puisque pour une raison que j'ignore, l'Annonciation n'est toujours pas à sa place logique dans le cours des Écritures. Bon, et surtout, cette réorganisation a eu pour effet, je ne sais pas si j'ai une photo... Voilà, donc voilà l'état à gauche en 1960, juste après l'achèvement des travaux, et l'état actuel, enfin actuel, en 2011, lors de la prise de la photo. J'ai perdu mon fil. Oui, le petit inconvénient de cette réorganisation des verrières, c'est que la verrière maîtresse, la vitre maîtresse, la verrière d'axe, qui représentait l'évêque offrant son église à la Vierge, du coup, a été déplacée sur, reléguée, on peut presque dire, sur le côté gauche du cœur, où elle est à peu près non identifiable par le visiteur moyen, disons. Et donc, cette grande idée symbolique et artistique qui avait présidé à l'élaboration du décor en 1855 a été un petit peu sabotée, on peut le dire, par cette réorganisation. Qui n'est peut-être pas définitive. Je ne sais pas si un jour on aura l'idée de remettre les verrières dans leur ordre logique. Donc, à l'issue de cette restauration-rénovation, on peut mesurer le changement, l'ampleur du changement, en comparant donc deux vues du cœur à 70 ans d'intervalle, avec le passage. Alors là, je vais être à gros sabots, je vais résumer cela, le passage donc de la piété. On va dire extraverti, voire ostentatoire, de la seconde moitié du XIXe siècle, époque où l'Église, d'Église triomphante, et bien sûr de piété mariale totalement extraverti, hein, comme nous l'a dit Madeleine Jogan ce matin. Donc le passage de cette piété vraiment extérieure du point de vue, bien sûr, des réformateurs conciliaires, à ce dépouillement relatif tout de même à Buglose, puisqu'on a conservé beaucoup d'éléments de l'ancien décor, ce dépouillement qui confine parfois à la froideur. Je vous redis d'aller faire un tour à Saint-Vincent-de-Xaintes aujourd'hui pour comprendre ce que je veux dire par là. Donc ce dépouillement recherché par l'Église conciliaire. Je crois que j'ai oublié de vous montrer à propos de Raymond Clairoc. Voilà, en fait, Raymond Clairoc, donc ce sculpteur, peintre, verrier, c'était un artiste complet, qui est embauché donc par le père Robert en 1959-60, était venu en fait pour faire cette peinture murale dans la chapelle des fonts baptismaux, dans ce baptême du Christ extrêmement dépouillé, très clair, très lumineux. Vraiment un artiste, lui aussi, qui gagnerait vraiment à être... davantage mis en avant, et donc il y a, par la même occasion, donc, procédé à la refonte de ces verrières. Voilà, donc je vais m'arrêter là, après beaucoup de temps. Donc c'est avec ce remaniement de 1960 que s'achève sans doute provisoirement l'histoire du décor mobilier de la basilique, puisque depuis un demi-siècle, on ne peut guère signaler que l'aménagement de la sacristie nord en oratoire, qui n'a pas entraîné un bouleversement notable dans l'économie du monument. Voilà, donc une histoire certainement à suivre, puisque tout monument est vivant et est appelé à se transformer. Je vous remercie.